Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons célébrer les 200 ans de Charles Baudelaire au musée d'Orsay, car il existe de profondes accointances entre le poète et cet établissement dont les collections couvrent la période 1848-1914, celle qui voit émerger la modernité. La programmation foisonnante prévoit une résidence artistique, des visites imaginaires, une exposition contemporaine, une masterclass poétique et également des vidéos en ligne. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Donatien Gros, conseiller de la présidence des musées d'Orsay et de l'Orangerie pour les programmes contemporains. Bonjour.
Bonjour.
Alors Baudelaire était un écrivain, non pas un peintre et un sculpteur, et pourtant il existe une profonde connivence entre le musée d'Orsay et Baudelaire. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, de manière très littérale, parce que le portrait de Baudelaire est présent à la fois de manière immédiatement perceptible, picturalement et en nombre, au travers des collections du musée d'Orsay. On peut penser à l'hommage à Delacroix de Fantin-Latour, on peut penser à l'atelier du peintre de Courbet et à bien d'autres œuvres où apparaît Baudelaire. Par ailleurs, on peut aussi penser à cette sorte de moment fascinant dans l'histoire de la peinture et de la poésie française, où le tableau qu'envisageait Fantin-Latour pour être l'anniversaire de Baudelaire devient le coin de table qui est le grand portrait de Rimbaud. Donc c'est aussi un moment assez intéressant puisque c'était à l'origine, ça devait être l'anniversaire de Baudelaire. Baudelaire meurt, il invente un nouveau projet, ça deviendra le coin de table avec le célèbre portrait de Rimbaud et Verlaine. Donc d'abord, il est très présent picturalement, physiquement, je dirais.
Dans vos collections.
Par ailleurs, il est aussi très présent par ses photographies. Il a été photographié un certain nombre de fois. Nous avons un certain nombre des plus beaux tirages des portraits photographiques de Baudelaire et il est présent, troisième point, à travers des œuvres dont il a parlé, qu'il a critiqué, qu'il a aimé. Et on peut penser à un exemple parmi tant d'autres dans les collections du musée d'Orsay, qui est la Lola de Valence de Manet, dont le titre vient d'un poème de Baudelaire. Donc d'abord, il y a une présence physique dans les collections. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que les questions que pose le musée d'Orsay, ces questions d'histoire politique, sociale, urbaine, intellectuelle, religieuse, esthétique, qu'il pose depuis sa fondation, son ouverture en 1986, sont des questions qui sont au cœur de l'œuvre de Charles Baudelaire. Donc c'est comme s'il y avait des correspondances d'abord visuelles, visibles, et puis aussi politique, intellectuelle, esthétique, qui sont au cœur des collections, de sorte qu'on pourrait quasiment dire que le musée d'Orsay, dans son intégralité, est sous le regard de Charles Baudelaire.
Alors aujourd'hui, nous considérons Baudelaire comme un classique, et vous allez un peu à rebrousse-poil de cette idée pour réveiller la modernité profonde de Baudelaire, nous l'a révélé.
Antoine Compagnon a placé Baudelaire au cœur de sa lignée des antimodernes. Et ce n'est pas pour rien si le grand Marc Fumaroli était absolument fasciné par Baudelaire. Parce que Baudelaire, c'est quelqu'un qui invente les chemins de la modernité tout en regardant sans cesse vers l'arrière. Au fond, c'est cette modernité à rebours dont a parlé Antoine Compagnon. Et c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est de penser que Baudelaire est à la fois le sceau d'une période. Il marque la question de la représentation, le rôle de la peinture après la photographie, dont il a été un des grands penseurs. L'invention même du post-art, sa fascination pour Constantin Guise, par exemple, le peintre de la vie moderne, ce n'est pas un artiste, c'est un illustrateur. Et donc il n'a cessé de marquer à la fois la fin d'un moment et le basculement vers un autre moment. Et c'est vrai que toutes ces figures qui nous accompagnent et qui accompagnent une sorte de généalogie littéraire, poétique, artistique de notre époque, eh bien, doivent être sans cesse revues, revisitées, réinventées. Parce que certes, Baudelaire est un classique, certes, Baudelaire est un moderne, certes, Baudelaire est un anti-moderne, mais Baudelaire est aussi un contemporain. Et je pense que c'est un aspect fondamental que nous avons essayé de mettre en évidence, c'est de se dire, dans ce musée d'Orsay, qui est tout entier sous le signe de Charles Baudelaire, comment montrer, dans le cadre de ces lecture contemporaine que nous avons initiée depuis plusieurs années maintenant, comment montrer que Charles Baudelaire est vivant, pleinement vivant dans notre monde contemporain et que Charles Baudelaire n'est pas simplement ou seulement une figure au panthéon de nos grands poètes, mais en réalité une figure qui appartient pleinement à notre présent. Et l'idée a été de montrer avec un ancrage dans les collections et dans le monde du musée d'Orsay, la diversité et la richesse de ces présences contemporaines de Charles Baudelaire.
Et cela, vous l'avez fait à la fois avec des grands noms, par exemple une exposition de peinture ou une résidence artistique, mais aussi avec le public. Comment voyez-vous cet équilibre entre les deux ?
Mais de toute façon, on l'a fait d'abord avec les collections et c'était important pour nous. Par exemple, nous avons un très important fonds d'œuvres graphiques de Constantin Guis, donc nous le présentons. Mais nous avons, vous savez, un musée, c'est la relation entre une collection et un public, et la friction entre les deux. Et nous sommes là, nous qui travaillons dans ces institutions, pour assurer cette relation et assurer cette rencontre. Alors on dira aussi que c'est un bâtiment, mais ça c'est encore une autre question. Et donc, nous, ce que nous avons fait, c'est à la fois de solliciter, on a un programme de visites imaginaires qui sont dirigées effectivement vers les publics avec Grégoire Leprince-Ringuet et Pauline Coppen. Mais nous avons aussi voulu toucher le public d'Instagram, par exemple, où nous avons, avec un programme que nous avons organisé qui s'appelle Voix Baudelairienne, où chaque semaine, tous les mercredis, si vous connectez du 9 avril, date de la naissance de Baudelaire, de 9 avril 2022, nous allons chaque semaine accueillir tous les mercredis une voix baudelairienne, et ça pourrait être aussi bien Antoine Compagnon ou Amin Malouf et Barbara Castaing de l'Académie française que Naomi Campbell ou l'acteur Willem Dafoe l'architecte Rem Koolhaas et beaucoup d'autres, ou la peintre évidemment Marlène Dumas que nous invitons par ailleurs. Et ces vidéos, au jour d'aujourd'hui, il y en a un petit peu plus d'une vingtaine qui ont été diffusées, il y a eu 800 000 vues, ce qui est quand même assez conséquent pour des lectures de poèmes. Et par ailleurs, l'idée aussi, c'était d'impliquer des voix artistiques, créatrices, parce que les artistes, les créateurs, les créatrices sont notre premier public. Sont eux qui sont comme en quelque sorte touchés immédiatement par ce musée dont l'époque a inventé la figure de l'artiste, hein, puisqu'elle naît à la fin du Louvre et elle se développe en fond au musée d'Orsay. Et donc nous avons souhaité inviter toutes ces créatrices, ces créateurs, aussi bien dans ces voix baudelairiennes, puisque ce sont aussi des voix du monde entier, hein, c'est très intéressant, le grand poète africain Medola Minsal, la créatrice japonaise Rimi Yamamoto et bien d'autres. Mais nous avons souhaité cela, mais nous avons aussi souhaité, par exemple, solliciter le très grand auteur, éditeur Roberto Calasso, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques semaines maintenant. Et le dernier texte auquel travaillait Roberto Calasso, qu'il a achevé, que nous publions avec les belles lettres en novembre, est une commande du musée d'Orsay. Et c'est le retour de Roberto Calasso sur ce Baudelaire auquel il a consacré tant d'études, tant de recherches, avec un texte absolument magnifique, une sorte de témoignage, de testament de lecteur, qui s'appelle « Ce qui est unique chez Baudelaire ». Ciò che si trova solo in Baudelaire, on a eu beaucoup de mal pour traduire le titre. Et donc c'était cette idée d'insérer toutes ces figures, et même encore d'inviter également le très grand auteur caribéen Patrick Chamoiseau, qui arrive chez nous au musée d'Orsay le 1er octobre et passera un mois à organiser, penser, inventer des nouvelles lectures baudelairiennes au musée.
Alors vous parlez de lecture, vous parlez de texte. Quelle peut être la place de la voix dans un musée ? Nous pensons souvent à l'œil. Et dans cet anniversaire, la voix, on a l'impression qu'elle emplit le musée d'Orsay.
Mais vous savez, d'abord, la voix fait partie du musée d'Orsay, puisque son fondateur, Michel Laclotte, disait, et c'était une phrase très neuve quand il l'a dite, en 1986, le musée d'Orsay devait être une polyphonie. Et donc une multiplicité de voix. C'est notre ADN, c'est notre identité, c'est ce que le musée devait être depuis son début, puisque tous ses directeurs et directrices et les équipes qui travaillaient avec elle et avec eux, comme moi, ont eu à cœur de mettre en évidence au travers des années. Donc d'abord, la voix, elle est là. Et puis en plus, le rapport entre voix et image, souvent on sépare les deux, mais ce n'est pas vrai. Enfin, vous savez, d'abord le 19e siècle est le siècle du rapport entre musique et... Exactement, entre musique et... entre sensations, entre musique et image. Et puis, donc, tout ça est assez naturel. En vérité, d'ailleurs, nous avons des programmes de musique au musée d'Orsay qui sont reconnus comme étant une des plus belles salles de spectacle de Paris. Donc, de musique de Paris. Mais pour répondre précisément sur Baudelaire, l'idée était justement de manifester que cette pluralité des voix était au cœur de notre projet, qu'il n'y avait pas de séparation entre les deux. Donc, nous ne faisons... Évidemment que nous invitons toutes ces voix, mais ces voix, je pense notamment au programme des voix baudelairiennes, hein, c'est lecture en ligne, eh bien, c'est aussi des mini-œuvres d'art que certains artistes créent, inventent pour l'occasion. Ce sont des cartes blanches, c'est aussi une manière pour eux d'inventer une image. C'est pas simplement le son, ils inventent aussi l'image. De la même manière, nous avons souhaité que qu'il y ait une présence visuelle d'œuvres très marquantes, puisque bon, je vous parlais de Constantin Guis, mais je peux tout autant parler de Marlène Dumas, qui est quand même considérée comme la plus grande peintre vivante, qui a conçu pour célébrer...
Que vous avez invité.
Absolument, pour célébrer le bicentenaire de Baudelaire, qui a créé une nouvelle série autour du spleen de Paris, que nous allons présenter à partir du 12 octobre et jusqu'à début janvier dans les salles du musée d'Orsay.
Et elle, quelle est son approche de Baudelaire? Elle qui se nourrit souvent de littérature.
Absolument, elle se nourrit, mais ce qui est intéressant avec Marlène Dumas, c'est qu'elle se nourrit de littérature, elle se nourrit d'images contemporaines, elle se nourrit de beaucoup de choses. Mais elle a voulu présenter une sorte de... en collaboration avec Hafid Bouaza, qui était un traducteur et qui allait travailler parce qu'elle cherchait à travailler une nouvelle édition illustrée du Spleen de Paris, traduit en néerlandais, puisqu'elle vit à Amsterdam. Et donc, il y a plusieurs types de lectures, on va dire. Il y a des portraits de Baudelaire, des portraits de Jeanne Duval, il y a des détails de tableaux, il y a aussi des transfigurations où elle va reprendre un élément d'un poème et l'adapter dans une relecture plus contemporaine. Il y a aussi littéralement des illustrations où on va voir le poème, je pense notamment à une œuvre magnifique inspirée du Joujou du pauvre, qui est absolument fascinante. Mais ce qui est aussi fascinant, je pense, pour le projet d'ensemble de Marlène Dumas, c'est le fait que ce soit une leçon de peinture, si vous voulez. Et donc, Marlène Dumas, qui est une peintre très expérimentale, qui est une peintre de figure, hein, donc elle n'a jamais été vraiment tentée par l'abstraction, mais elle ne cesse de tenter de nouvelles manières de peindre. Et ce qui est fascinant dans l'exposition que l'on découvrira au musée d'Orsay, le Spleen de Paris, eh bien, c'est qu'on voit toutes ces manières de peindre. Et ça, c'est aussi très, très baudelairien, parce qu'évidemment, il y a la relecture immédiate des poèmes, mais il y a aussi le fait qu'après tout, ne cesser d'expérimenter, ne cesser de manifester la force sensible et parfois brutale de la peinture, eh bien, c'est un enjeu central de ce que défend Baudelaire, de ce qui passionne Baudelaire et qu'on revoit aujourd'hui chez une très grande peintre comme Marlène Dumas.
Qu'a-t-il à nous dire Baudelaire aujourd'hui en 2021? Il y avait son centenaire en 1921. Aujourd'hui, c'est différent. Qu'est-ce qu'une commémoration contemporaine de Baudelaire?
Vous savez, nous ne cessons, je vais vous citer la célèbre phrase de Montaigne, hein, nous ne cessons de nous entregloser. Toute lecture, c'est aussi ce que je pense comme dans mon travail d'historien, chaque période nous permet de lire les choses autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'on les réinvente, alors, au pire on les réinvente, mais surtout on voit les choses d'une manière différente et on voit mieux certains aspects qu'on ne pouvait pas voir avant. Par exemple, évidemment, la question du passage d'une époque à une autre, la question de la sensibilité, la question de ce rapport à la peinture, la question du regret d'un monde dont on pense sans cesse qu'il disparaît alors qu'un nouveau monde apparaît. Et on pourrait d'ailleurs dire que le rapport au monde numérique n'est pas très loin de la question de la crise de la photographie, que la photographie impose à la représentation dont parle Baudelaire. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais il y a encore d'autres choses qu'on peut voir aujourd'hui. Une chose qui m'a beaucoup fasciné en travaillant un petit peu sur Baudelaire, je m'en souvenais vaguement de mes études de littérature, mais par exemple le fait que l'aventure poétique de Baudelaire, ce qui va devenir Les Fleurs du Mal, commence à l'île Maurice, le rêve de Baudelaire d'aller aux Indes, cette volonté d'une sorte de rêver une centralité de Paris qui disparaît et en même temps l'ouverture complète au monde. Vous savez, le poème à une balle à Barès, qui est donc repris dans Les Épaves, est un poème qui est écrit à l'île Maurice et étant écrit à l'île Maurice, dans un voyage que rêve Baudelaire vers les Indes. Voyage qu'il racontera avoir réalisé, mais qu'en fait, il ne réalise pas. Et il se cessera de dire qu'aller dans l'île d'Ouessant a été une des sources de sa poésie. Donc aujourd'hui, où nous réfléchissons aux méthodes de l'histoire, ce seul fait, cette idée que le grand poète français, le grand poète qui a, avant Mallarmé, transformé le vers et l'a brisé avec, après Louis-Auguste Bertrand, la pratique des petits poèmes en prose, justement, eh bien, tout cela se rend compte que cette grande figure de notre poésie était déjà dans un rêve d'ailleurs, était déjà allée ailleurs, et que cet ailleurs était l'origine même affichée de sa poésie, eh bien, c'est tout de même très intéressant. Mais c'est juste un aspect parmi d'autres. Nous pouvons aujourd'hui relire Baudelaire et nous rendre compte, et c'est évidemment fascinant de pouvoir dire cela sur Canal Académie, que cette grande figure... appartient à la France, appartient à la littérature française, appartient à la langue française et appartient au monde. Parce que ce que nous avons voulu faire, notamment avec ces voix baudelairiennes, mais aussi en invitant Patrick Chamoiseau, notre grand auteur caribéen, ou invitant Marlène Dumas, qui vit à Amsterdam et est née en Afrique du Sud, c'est se rendre compte que l'impact de Baudelaire, il est présent dans toutes les Frances et il est présent partout dans le monde. De manière différente, bien sûr, pas de la même manière, peut-être pas en français, mais toujours dans une présence de cette poésie, de cette vision du monde, à la fois de cette mélancolie et en même temps de cette passion de vivre, qui sont absolument fascinantes aujourd'hui.
Eh bien, un grand merci, Denis, c'est un gros, de nous avoir donné envie de nous rendre au musée d'Orsay pour profiter de cette programmation. Elle est tellement abondante qu'il serait difficile de tout présenter, mais je vous invite à aller sur le site internet du musée d'Orsay pour voir les expositions, les visites imaginaires, les publications, la masterclass poétique, pourquoi pas, préparée avec les étudiants de Sciences Po, puis également sur le compte Instagram pour les voix baudelairiennes. À bientôt.
Merci beaucoup.